Vous écoutez, on lit pour vous.
Look haut de gamme, pas cher et pas sécuritaire. Un texte de Marc Soucieux, paru le 21 septembre 2025 dans la presse. Un vélo, ce n'est pas qu'un cadre et deux roues. C'est une machine conçue pour être rapide et légère, mais surtout sécuritaire. Sa fabrication demande près de 40 heures de travail précis, suivi de tests rigoureux. Parce qu'à pleine vitesse, une fissure peut vite tourner au danger. Cet aspect de la sécurité est celui qui écope le plus sur le marché de la contrefaçon. Sur Facebook Marketplace, AliExpress ou Amazon, des cadres, des roues et même des casques reprennent l'allure des grandes marques. Les faussaires inondent le web de répliques à prix alléchant. Or, leur fiabilité n'est qu'une impression. Dominique Belair en a déjà fait l'expérience. Ce cycliste amateur, qui parcourt des milliers de kilomètres chaque été sur sa monture, a lui aussi été tenté par l'aubaine. Il a commandé en ligne un cadre en carbone qui copiait un Pinarello haut de gamme. Le prix, 10 fois moins cher que l'original. À l'œil nu, impossible de voir la différence. Mais une fois sur la route, les limites se font sentir. Le cadre manquait de rigidité, de légèreté et de fiabilité. Quelqu'un qui ne les compare pas côte à côte ne verra jamais la différence. Mais pour moi, le doute pour la sécurité était toujours là, dit-il. Il a quand même roulé plusieurs étés avec ce vélo. Bien qu'il n'ait pas subi de bris majeurs, il n'a jamais eu l'esprit tranquille. On peut dire que c'était un cadre bas de gamme au look très haut de gamme, tranche aujourd'hui le cycliste. Pour Jacques Sénéchel, rédacteur en chef de Vélomag, une nuance s'impose. Un vélo bas de gamme, c'est plus lourd, moins performant, mais il reste sécuritaire, explique-t-il. Une contrefaçon, c'est une copie qui imite les logos des grandes marques. Dans la majorité des cas, la qualité est médiocre. Contrairement à une croyance répandue, ces faux ne sont pas des excédents d'usine écoulés discrètement. Les ateliers qui les produisent n'ont pas à se conformer aux mêmes normes que les grands fabricants. Leur seul objectif est d'imiter l'apparence, sans se soucier de la qualité. Opération complexe. Fabriquer un cadre de vélo en carbone ne s'improvise pas. C'est une opération complexe qui comporte plusieurs détails et c'est justement là que les contrefaçons échouent. Louis Laberge-Lebel, professeur de génie mécanique à Polytechnique Montréal, explique que les vélos modernes sont fabriqués à partir de feuilles de fibre de carbone pré-imprégnées de résine, enroulées autour de ballons gonflables, avant d'être insérées dans un moule métallique. Sous l'effet de la chaleur, la résine commence à se liquéfier avant qu'une réaction chimique la fasse durcir. C'est lorsque la résine est liquide que le ballon se gonfle, plaquant les couches contre les parois pour donner naissance au cadre. Tout se joue dans l'agencement de ces couches. Plus il y a de plis, plus le vélo devient lourd, résume le professeur. L'orientation des plis choisis permet d'obtenir différentes réponses mécaniques et d'ajuster ainsi la rigidité et la solidité du cadre. Une copie peut facilement reprendre la forme extérieure d'un vélo sans respecter les plans d'ingénierie. Ainsi, une contrefaçon peut avoir moins de matière, des fibres mal disposées ou des cycles de cuisson approximatifs. Elle peut sembler identique, mais réagira autrement sous l'effort. Sans test en laboratoire, il est impossible de savoir l'authenticité du vélo, déplore M. Laberge-Lebel. Un acheteur n'a tout simplement pas accès à l'équipement nécessaire pour mesurer les caractéristiques du matériau composite à fibre de carbone qui constitue le cadre du vélo. La chasse aux faux. L'entreprise Specialized connaît bien ce problème. L'entreprise américaine est aujourd'hui la marque des vélos la plus copiée du monde. Ses modèles, notamment ceux qui brillent autour de France, sont les plus souvent copiés. Le danger, rappelle Andrew Love, directeur mondial de la protection de marque chez Specialized, c'est que ces copies n'ont jamais été soumises au moindre test. Ces contrefaçons tentent de reproduire des produits vraiment légers et hautement conçus. Ils craquent, ils ne durent pas longtemps et il n'y a aucune garantie, prévient-il. Certains sont si fragiles qu'ils se brisent d'une simple pression. Tu es capable de briser certains faux guidons avec tes mains, affirme Andrew Love. Monsieur Love a d'ailleurs publié une vidéo sur Facebook il y a quelques années dans laquelle on le voit déformer un guidon avec une facilité désarmante. En mars dernier, Specialized a participé à un raid en Chine qui a permis de retirer du marché pour plus de 1 million de dollars en faux cadres et 538 guidons contrefaits. Ce n'était qu'une opération parmi les 27 déjà effectuées en Chine. Au total, l'entreprise affirme avoir fermé plus de 1700 annonces Facebook et 250 sites frauduleux. Ces contrefaçons n'offrent pas une solution de rechange abordable, mais une illusion dangereuse. Comme le mentionne Jacques Sénéchel, les gens s'achètent une image de marque, une image qui, sur la route, peut coûter cher. Comment repérer les vrais vélos? Achetez local. Allez magasiner à votre magasin local de cyclisme. S'il y a un problème, vous pourrez regarder quelqu'un directement dans les yeux. Et ça n'a pas de prix, souligne Andrew Love. Vérifiez le numéro de série. Les marques comme Specialized, Pinarello et Colnago permettent de confirmer l'authenticité directement sur leur site. Méfiez-vous des prix trop beaux pour être vrais. Un cadre de grande marque à une fraction du prix officiel est suspect. Évitez les plateformes généralistes. C'est super facile de tomber sur des arnaques en ce moment, avertit Andrew Love, qui conseille de se tourner vers un modèle plus ancien si le prix est un enjeu. Les vélos datant de quelques années sont souvent beaucoup moins chers, toujours de bonne qualité et offerts par des détaillants fiables. C'était « Look haut de gamme, pas cher et pas sécuritaire », un texte de Marc Soucieux paru le 21 septembre 2025 dans la presse.
Au rythme du vivant. Un texte de Maureen Jouglin de l'Itinéraire, paru le 24 janvier 2026 dans la presse. Boucard Diouf a plusieurs casquettes, humoriste, biologiste, animateur. Mais lorsqu'on lui pose la question, il se définit comme un raconteur d'histoire avant tout. Dans ses spectacles, ses livres et ses interventions médiatiques, il scrute la nature pour éclairer nos contradictions et les tensions de notre époque. L'Itinéraire a rencontré l'humoriste dans un café du Vieux-Longueuil pour parler de la dernière année, de l'essor du capitalisme numérique, de la nature comme médicament, à la suite de l'apparition de son dernier ouvrage, « Déconnecté » pour se rebrancher aux racines de notre humanité. Le café était particulièrement animé ce jour-là. Un comité de la ville de Longueuil y tenait un petit rassemblement. À peine entré, Boucard Diouf a reconnu plusieurs visages. La pièce s'est rapidement chargée de sourires et de poignées de main. Une scène qui en dit long. 2025, une année bouleversée. Pour beaucoup, 2025 rime avec Donald Trump. Il nous a chamboulés, constate Boucard Diouf. Son année a été vivement marquée par les élections américaines. Trump, Elon Musk, la montée des géants du numérique, etc. Autant de figures que Boucard Diouf regarde comme un biologiste observerait un écosystème en mutation. Pour lui, Trump a quelque chose du chimpanzé. Musk personnifie l'insatisfaction humaine, ce moteur qui nous pousse sans cesse à vouloir plus. Quant aux géants du numérique, ce sont les super-prédateurs des temps modernes. Il en parle dans ses spectacles d'humour, dans ses émissions de radio, mais surtout dans son plus récent ouvrage « Déconnecté pour se rebrancher aux racines de notre humanité », paru en septembre 2025. Ce livre, c'est vraiment en lien direct avec le bouleversement que la planète traverse à tous les niveaux, confie-t-il. Les super-prédateurs modernes. Dans son livre, Boucard Diouf décrit le capitalisme numérique comme un écosystème dominé par quelques super-prédateurs. Les GAFAM se comportent comme les grands carnivores au sommet de la chaîne alimentaire qui ne craignent plus rien ni personne. Leur stratégie de prédation? Isoler leur proie pour mieux vendre leurs produits. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sortir pour manger, pour socialiser, pour vivre, constate-t-il. Une situation qui rappelle quelques extraits du film d'animation Wall-E, une dystopie où notamment des humains affalés dans des fauteuils flottants ont renoncé à tout effort. L'Internet pour le corps. L'intelligence artificielle pour le cerveau. Pour l'humoriste scientifique, le numérique prospère en nous vendant le simple, le sans effort. Mais ce confort, à force de s'accumuler, nous fragilise. Quand l'humain est isolé, il vit une anxiété d'exclusion et la façon d'apaiser cette anxiété, c'est par la consommation, dit Boukhar Diouf. Boukhar rappelle que les plateformes numériques ont été conçues avec l'avis de spécialistes du cerveau. Il savait qu'il fallait viser le striatum. Cette structure du cerveau, clé du système de récompense, libère de la dopamine pour renforcer les comportements essentiels à la survie, comme se nourrir ou se reproduire. Les réseaux sociaux exploitent ce mécanisme en continu. Le cerveau s'y habitue, réclame sa dose. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique, un phénomène qui fait que nous nous habituons rapidement à ce qui nous procure du plaisir au point de ne plus vraiment l'apprécier. Une publication à 2000 mentions « j'aime » en appelle une autre à 2500. Et si on obtient moins qu'à l'habitude, l'anxiété s'installe. Les gens qui ont conçu ces plateformes le savaient, insiste-t-il. Ils sont allés chercher ce qu'il y avait de plus vulnérable dans notre histoire évolutive. À force d'adopter ce mode de vie, nous conservons notre énergie sans jamais la dépenser, à l'image du capitalisme qui accumule sans fin. Dans la mer, les harengs sont plus résilients que les baleines, souligne Boukhar Diouf. Une baleine immense a du mal à se retourner et dépend d'une quantité colossale de nourriture. Au moindre manque, elle vacille. Je ne sais pas si nos sociétés libérales résisteront au capitalisme. Leçon d'humilité. Si l'humanité avait observé les plantes plutôt que les lions, les loups ou les tigres, le monde serait peut-être différent. L'évolution a taillé notre cerveau pour remarquer ce qui peut nous manger, pas ce qui nous maintient en vie. Il s'intéresse particulièrement aux plantes qui utilisent des fleurs pour se reproduire, celles qu'on appelle angiospermes ou plantes à fleurs plus simplement. Elles représentent la majorité de ce que nous mangeons et une bonne part de ce que l'on donne au bétail. Pour lui, ces plantes incarnent mieux que tout le modèle de l'économie de partage. « La Terre est une planète végétale, dit Boukhar Diouf. Quand tu la regardes du ciel, tu vois le bleu de l'eau et le vert chlorophyllien. » Boukhar Diouf admire aussi les pieuvres, les corbeaux et même les ratons laveurs. Des animaux dotés d'une bonne capacité d'adaptation et capables d'utiliser des outils. Je l'ai déjà écrit dans un livre. Mais je suis sûr que les ratons laveurs donnent des cours du soir aux écureuils pour leur apprendre à ouvrir les nouvelles poubelles, plaisante-t-il. Pour Boukhar Diouf, revenir à la nature n'est pas qu'un geste romantique ou un simple retour aux sources. Pendant 99% de son histoire, l'humain a vécu dehors, rappelle-t-il. La sédentarisation, elle, ne date que du néolithique, il y a à peine 10 000 ans. Autant dire qu'il s'agit d'un clin d'œil à l'échelle de notre évolution. Penser qu'on peut abandonner tout ça et vivre entre quatre murs collés sur nos écrans sans en payer le prix physique et mental... C'est juste irréaliste. C'était « Au rythme du vivant », un texte de Maureen Jouglin de l'Itinéraire, paru le 24 janvier 2026 dans la presse.
prescrire la nature, quand la toundra devient thérapeutique, un texte de Marie-Pierre Rioux, publié le 21 octobre 2025 dans le Nunavut. Les ordonnances de temps en nature ont vu le jour aux États-Unis il y a plus d'une décennie, et depuis, elles ont pris racine dans plusieurs provinces canadiennes. Ma famille et moi avons choisi de nous installer à Iqaluit. Cette immersion dans le Nord m'amène à réfléchir autrement le lien entre nature et santé. Bien que nous soyons loin de nos forêts boréales ou de nos parcs urbains verdoyants, la nature soigne. Quand la nature devient soin, l'idée derrière les ordonnances de temps en nature est simple, mais puissante. Intégrer la nature comme un outil de prévention et d'intervention dans le domaine de la santé. Bien avant que la science ne confirme ses bienfaits, les peuples autochtones, dont les Inuits, entretenaient déjà une relation intime et sacrée avec la nature. Elle est source de nourriture, d'enseignement, de spiritualité et de guérison. Aujourd'hui, les chercheurs confirment ce que plusieurs savent intuitivement. À l'échelle populationnelle, les milieux de vie favorisant le contact avec la nature sont associés à une baisse de la mortalité, une diminution de l'isolement social et même une réduction de la criminalité. INSPQ 2017. En termes de perception, vivre près d'un espace naturel peut procurer un sentiment de bien-être équivalent à un gain de revenu de 10 000 $ ou à se sentir 7 ans plus jeune. Cardin et autres, 2015. À l'échelle individuelle, les effets sont impressionnants. Après seulement 15 à 20 minutes en nature, on observe une baisse de la tension artérielle, une diminution du cortisol, hormone du stress, une amélioration du système immunitaire et même une meilleure gestion de la glycémie. Pour ceux vivant avec des douleurs chroniques, la nature agit comme un complément aux stratégies de gestion. Sur le plan psychologique, les bienfaits sont profonds. Réduction de l'anxiété, diminution des symptômes dépressifs, meilleure concentration. Pour les enfants, une augmentation de la concentration à l'école a été démontrée. Du côté de nos aînés, la nature aide à prévenir les troubles cognitifs, brise l'isolement et augmente la perception du bien-être. La toundra, un terrain thérapeutique unique au Nunavut, la toundra s'étend à perte de vue et même les quartiers résidentiels permettent un accès rapide à des sentiers, rivières et formations rocheuses millénaires. Les vastes paysages, la lumière unique du nord, le contact saisissant du vent sur nos joues, tout cela crée un cadre idéal pour une reconnexion à soi et à la terre. Ce qui pourrait sembler aride ou inaccessible est en réalité une richesse immense. Il n'y a qu'à marcher quelques minutes à l'extérieur du centre-ville d'Iqaluit pour s'immerger complètement dans la nature. Des niveaux d'exposition à la nature variables. La chercheure Virginie Gargano, 2022, spécialiste de l'intervention par la nature, a identifié plusieurs niveaux de contact avec l'environnement naturel. Même une exposition indirecte, comme regarder une photo de paysage ou une vidéo de nature, peut produire des effets bénéfiques. Ensuite viennent les contacts quasi passifs, comme le jardinage ou la présence de plantes. Le simple fait d'être dans un espace vert sans but de performance, de marcher ou de s'arrêter pour observer constitue une forme d'immersion légère. Enfin, des séjours prolongés en nature avec activité physique et nuitées permettent une immersion complète. Chaque niveau apporte son lot de bienfaits. L'important, c'est la régularité. Une prescription typique, 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine. Une marche en toundra, un pique-nique au bord de la rivière Sylvia Grinnell, ou simplement s'asseoir en silence pour observer le paysage, tout compte. Pourquoi la prescrire formellement? L'acte de prescrire, même de manière symbolique, a un impact. L'écrire sur papier renforce l'engagement tant du professionnel que de la personne qui reçoit la prescription. Son objectif? Faire de la nature une alliée accessible à tous et non un luxe réservé à ceux qui peuvent se permettre des escapades à l'extérieur des villes. Cela nécessite aussi un engagement politique pour protéger et valoriser les espaces naturels de proximité. Un modèle ancien est remis au goût du jour. L'idée de la nature comme soin n'est pas nouvelle. Les sanatoriums pour les tuberculeux au 19e siècle, Central Park à New York, conçu pour améliorer la santé des citoyens, ou encore le Shinrin-yoku ou bain de forêt pratiqué depuis les années 1980 au Japon, sont autant de preuves historiques. Plus récemment, des programmes comme PARX, Canada, Nature Prescription Écosse, ou encore l'initiative québécoise Prescrit Nature, s'inspirent de cette sagesse ancienne, tout en la soutenant par des données scientifiques solides. Et ici, à Iqaluit, il serait facile de croire que ce genre d'initiative ne concerne que les villes du Sud, mais ici, à Iqaluit, tout est en place pour intégrer la nature au quotidien. Les milieux éducatifs peuvent organiser des sorties en toundra, les travailleurs de la santé peuvent orienter leurs patients vers des promenades en plein air, et les citoyens peuvent simplement redécouvrir leur territoire. Et si l'on commençait par là, sortir dehors, regarder autour, respirer et laisser la nature faire son œuvre. C'était « Prescrire la nature quand la toundra devient thérapeutique », un texte de Marie-Pierre Rioux, publié le 21 octobre 2025 dans le Nunavoie.
Qui es-tu, bel arbre ? Un texte de Marie Tison, paru le 4 octobre 2025 dans la presse. C'est un bien bel arbre qui se dresse en haut de la falaise, mature, solide. Mais de quelle espèce s'agit-il ? Ce serait chouette de pouvoir l'identifier. Marc-André Villard, biologiste à la CEPAC, suggère l'utilisation d'une clé d'identification comme celle que propose Espace pour la vie sur son site internet. Il se fait toutefois un plaisir de fournir quelques bons indices pour se débrouiller lors de la prochaine randonnée en forêt. En partant, il est un peu plus facile de s'y retrouver avec les conifères qu'avec les feuillus. La première question à se poser, c'est si on se trouve devant des aiguilles ou des écailles, explique M. Villard. Si on a des écailles, ça va être un thuya. Il est moins abondant que les autres espèces de conifères, mais il peut être dominant dans certains milieux humides. Le thuya, qu'on appelle souvent cèdre, est un bois très prisé. On l'a donc beaucoup coupé. Si l'arbre a des aiguilles, il faut vérifier si elles sont en faisceau ou si elles sont individuelles. Dans ce dernier cas, on se retrouve devant un sapin ou une épinette. Le bon vieux truc, c'est de voir si les aiguilles roulent entre vos doigts ou pas, précise Marc-André Villard. Les aiguilles d'épinette sont plutôt carrées, elles vont bien rouler, alors que les aiguilles de sapin sont plates, elles ne roulent pas. Ce qui explique un peu les choses, c'est qu'il y a 3 types d'épinettes, la noire, la rouge et la blanche. Si on regarde les rameaux de l'épinette noire, il y a des poils noirâtres qui lui donnent sa coloration et son nom. Il n'y a pas de poils sur l'épinette blanche. Le problème, c'est que sur l'épinette rouge, il y a un peu de poils. Ça devient compliqué de chercher à les distinguer. La situation est plus simple avec les pins, qui ont des aiguilles en faisceau. Quand on a deux aiguilles très longues par faisceau, il s'agit du pin rouge, affirme M. Villard. Quand on a deux aiguilles qui sont courtes, c'est le pin gris. Quand on a cinq aiguilles, c'est le pin blanc. Il ne faut pas oublier le mélèze, qui peut avoir de 15 à 60 aiguilles par faisceau. Ça n'a rien à voir avec le pin. En outre, les aiguilles du mélèze deviennent jaunes et tombent à l'automne. C'est un arbre qui pousse typiquement dans les tourbières, comme l'épinette noire, mais qu'on va aussi retrouver là où le drainage n'est pas très bon, indique M. Villard. C'est plus typiquement un arbre de la forêt boréale. Place aux feuillus. Du côté des feuillus, il faut regarder si les feuilles sont attachées aux rameaux deux par deux, une en face de l'autre, elles sont opposées, ou si elles ne le sont pas, elles sont alors alternes. Il faut aussi voir si la feuille est toute seule en un seul morceau, elle est simple, ou s'il y a plusieurs folioles, elle est alors composée. C'est ainsi que le frêne a des feuilles opposées composées. On va distinguer le frêne noir qui a plus de folioles que le frêne d'Amérique et le frêne rouge, indique M. Villard. Faire la distinction entre le frêne d'Amérique et le frêne rouge, c'est compliqué. Mais de savoir que c'est un frêne, c'est déjà une bonne chose. Les érables, eux, ont des feuilles opposées, mais simples. Elles sont faciles à reconnaître parce qu'elles sont lobées. L'érable à sucre et l'érable rouge sont deux espèces communes. La différence est subtile, il faut bien regarder. La feuille de l'érable à sucre a des marges entières. Il n'y a pas de petites dents entre les lobes et les pointes, alors qu'il y en a sur les feuilles de l'érable rouge. À l'automne, il y a un autre indice. Les feuilles de l'érable rouge deviennent vraiment rouges, alors que le feuillage de l'érable à sucre jaunit et prend à peine des teintes orangées. Il est toujours moins flamboyant, note M. Villard. Le chêne, le tilleul, le peuplier et le bouleau ont des feuilles alternes, poursuit-il. Le chêne, on le connaît. Il a des feuilles lobées. Le tilleul, lui, a une feuille cordifoliée, en forme de cœur, qui peut être énorme dans certains cas. Le peuplier a de petites feuilles plus ou moins rondes avec des pétioles. Dans le cas du bouleau, on a de petites feuilles simples, plus ou moins dentées, plus elliptiques que les feuilles du peuplier. Évidemment, le tronc bien particulier du bouleau aide à l'identification. Le tronc du bouleau blanc est bien blanc. Son écorce se détache en lambeaux, alors que l'écorce du bouleau jaune est plutôt dorée. Quand il est plus vieux, l'écorce du bouleau jaune devient plutôt plus rugueuse. Et le bel arbre du haut de la falaise, c'était un conifère avec des écailles, donc un très beau tuya. Maintenant, on le sait. C'était « Qui es-tu, bel arbre ?», un texte de Marie Tison, paru le 4 octobre 2025 dans la presse.